Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page. Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire qui aime la musique, parce que Rock and Page, c'est ça, c'est le rendez-vous que je vous fixe, moi, avec mes coups de cœur littéraires. Et pour bien faire, ben, comme d'habitude, je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs quand cela est possible. Et puis, je crois, j'essaye d'unir, de créer des passerelles entre ceux qui aiment lire et ceux qui sont moins sensibles à la lecture, en vous proposant dans chaque émission, donc pour chaque roman, une playlist, ou plutôt la playlist construite par mes soins, donc en toute subjectivité, je vous l'accorde, pour restituer l'univers du roman, la couleur de l'écriture, les personnages, le rythme, bref, vous m'avez compris. Aujourd'hui, à l'honneur dans Rock and Page, un roman paru chez Zulma. Zulma, c'est vraiment une maison d'édition que je vous conseille de suivre. Ce roman-là, il s'appelle Soliciano. Il est écrit par Ingrid Taubois. Et comme la vie est bien faite, nous recevrons d'ici quelques minutes Ingrid Taubois en interview pour vous. Allez, tout de suite, avant de vous en dire plus, avant de vous en parler de ce roman, écoutez plutôt à quoi il m'a fait penser dans son ensemble. Voilà, c'était un extrait de la bande originale de Mulholland Drive, vous l'aurez reconnu, ce film de David Lynch, pour vous restituer comme ça, d'entrée de Rock and Page, ce à quoi m'a fait penser l'univers, si vous voulez, de Soliciano d'Ingrid Taubois, paru chez Zulma. Alors la petite histoire de Soliciano, bah, c'est pas facile, croyez-moi. C'est un portrait en creux, en ombre, je dirais, d'une femme, Norma Jean. Norma Jean, et c'est le portrait de ses liens avec deux hommes. Jean, son mari, qui fut son psychanalyste, D'accord, ça c'est pour la petite histoire. Et puis Marco, Marco qui fut son élève, mais qui est à présent, et on commence comme ça, on entre comme ça dans le bouquin, qui fut son élève et qui est enfermé pour 22 ans dans une prison à Florence, qui donne son titre au roman, puisque c'est Solliciano, le nom de la prison. Norma Jean a une relation particulièrement ambigu avec Marco, qui n'est pas marqué, qui n'est pas signé, qui n'est pas nommable en fait. Toujours est-il qu'elle va rendre visite à la prison toutes les semaines. Elle permet à Marco d'écrire pour une revue. Donc elle fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et Jean, le mari, ne sait absolument rien de rien sur cette relation entre Norma Jean et Marco. Ce récit est construit comme un puzzle, c'est-à-dire que nous, lecteurs, on va ramasser des pièces d'ici, de là, qui, à la fin seulement de la lecture, nous permettront d'avoir une lecture sur qui est cette Norma Jean. Et pour vous donner une idée un peu plus précise de cette Norma Jean, je vais vous lire la somptueuse première leçon de philosophie qu'elle donne chaque année à tous ses élèves. La philosophie n'a qu'un sujet, le temps. L'histoire des idées forme une roue autour de ce seul axe. Toutes les préoccupations humaines se rencontrent à l'endroit de ce nœud. La vie peut se résumer à une chute de tissu plus ou moins large, imprimée de motifs qui sont nos seules éternités. La première décennie semble longue et épaisse comme une cuillerée d'antibiotiques pour enfants aromatisée jusqu'à la nausée. Le goût reste en bouche et remonte parfois au nez, baluchon de chair et d'os trimballé d'épaule en épaule, petit fardeau ignorant sa trajectoire, parfois abandonné ou se vivant comme tel, l'enfant fait l'acquisition des fondamentaux, d'abord le langage, ensuite la propreté. Plus tard, il s'accommode beaucoup mieux de l'incontinence que de l'aphasie, à moins que, devenu aphasique, il ne soit pas en mesure de faire savoir qu'il s'accommode bien mieux du silence que de l'incontinence. Mais après tout, qu'importe, les deux allant souvent de pair. La deuxième décennie est celle de tous les dangers. Vivre con, mourir violemment, nombre de traumatismes trouvent leur origine dans l'accident de voiture de la première amoureuse, la leucémie du petit voisin, l'overdose du fils de la boulangère ou le coma éthylique du tombeur de la classe. On assiste à ses premiers enterrements, on éprouve les premières pertes de sens devant des cercueils trop petits. On avale ses premières bouffées d'absurde au spectacle de parents dévastés, eux-mêmes un peu trop jeunes pour mourir. À défaut d'avoir saisi la valeur de la vie, on commence à redouter la mort. Au cours de la troisième décennie, soudain, on se rend compte qu'un tiers s'est écoulé. On intègre une donnée qui jusqu'ici nous avait échappé. La mort ne sera pas forcément brutale et en couleur. Sans panache, elle pourra aussi être lente, douloureuse et inesthétique. Alors on corrige ses habitudes à la lecture des statistiques dans les magazines. Il va falloir songer à arrêter de fumer. À l'idée de durée, une déprime s'installe. Pour James Dean, l'occasion est ratée. Sur la durée, on manquera forcément d'élégance. Puis un matin, on s'avise du miracle. En 10 ou 15 000 jours d'existence, on a évité tous les trous dans la chaussée. Aucun véhicule ne nous a renversé. Les maladies orphelines nous ont ignorés, les tueurs en série aussi, les suicidaires du métro ont choisi d'en alasser d'autres, les ruptures d'anévrisme ont élu nos voisins de palier, les guerres sont passées à côté, les cancers foudroyants ont préféré le lit d'un proche. Alors, si l'émerveillement de la beauté n'a pas été pulvérisé par les femmes qui nous ont lâchés, et que l'attrait de la lumière a perduré malgré les hommes qui nous ont trompés, si malgré la bassesse du monde, notre tête a empêché son cou de s'emmitoufler dans la corde, alors on peut imaginer avoir atteint le milieu supposé de sa vie, 40 ou 50 ans. C'est peu et beaucoup à la fois, vertigineux d'en être arrivé là, si vite et si lentement, avec pour unique séquelle un temps de mise en route matinale ralenti, et du tartre coquille d'œuf à l'intérieur des dents. Des siècles d'évolution pour connaître les déboires d'un fer à repasser, le rêve en plus, et surtout, son souvenir. Voilà, voilà quelque chose, un passage du roman qui pourrait vous en dire un peu plus sur Norma Jean, à moins que Beth Gibson s'en charge mieux que nous. Des silent words of conversation hold me now this adulation. Oh, see me now. Oh, it's easy now. Falling like a silent paper, holding on to what may be. And I only hear
to remember. Winter's here and there ain't nothing gonna change. The winds are blowing and telling me all I hear. Oh, it's a funny time of year. There'll be no blossom on the tree.
Voilà, voilà, Beth Gisson, pour vous dire à quel point Norma Jean est un personnage écorché, bancal, fragile, mais qu'il est aussi le portrait réussi qui fait toute la beauté de Solitiano, le roman de Ingrid Taubois paru chez Zulma. Alors, je vous le disais en début d'émission, ce roman est construit, écrit comme un puzzle. Il mêle plusieurs récits. Ça sera à nous de suivre le fil, de le tendre, mais ça, l'auteur, croyez-moi, s'en chargera pour nous aussi, pour reconstituer une vue dense qui est complètement désaxé, qui est complètement on nous fait perdre les repères temporels habituels. Bref, on nous met en danger et c'est ça aussi que je mets en avant dans Rock'n'Page aujourd'hui. C'est donc un roman sur le temps, sur l'enfermement et qui a un autre gros focus à mon sens, c'est-à-dire qu'il pose clairement la question de qui est le plus enfermé finalement, de Marco qui est officiellement en prison pour 22 ans, ou de Jean, qui se meurt à l'intérieur d'un couple qui le dévaste à cause de cette Norma Jean, dont il ne sait finalement rien, même s'il a été en possession de tous les faits marquants de la vie de Norma Jean, un père absent, c'est-à-dire là au début et puis parti, un amant des plus violents qui a brisé la vie de Norma Jean, tout ça il le sait, et pourtant, Norma Jean lui échappe complètement, vous le verrez, et lui échappe au point qu'il en perdra la raison. Et moi, ce mari, eh ben, je vous en parlerai bien comme ça, de sa douleur. Voilà, c'était ce morceau de TV and the Radio qui pour moi est une spirale quoi, qui marque tout à fait bien ce que j'ai vécu, ce que m'a fait ressentir Ingrid Taubois dans Solitiano à propos de Jean, le mari qui s'enferme à l'intérieur de lui-même, complètement accablé par la douleur sur la fin de son couple. Bref, comme la vie est bien foutue, j'ai réussi à attraper Ingrid Taubois pour vous en interview. Elle était présente sur la Comédie du Livre de Montpellier les 2 et 3 juin dernier. Écoutez plutôt ce qu'elle en dit, elle, de son roman. Ingrid Taubois, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Comment l'écriture est entrée dans votre vie ?
Comment l'écriture est entrée dans ma vie ? En fait, j'ai fait une rencontre à 19 ans avec l'œuvre de Nicolas Bouvier, un écrivain suisse qui est classé de façon inconsidérée dans les écrivains voyageurs, ce qu'il n'est pas à mon avis. C'est un écrivain qui a voyagé. Et je crois que l'œuvre de Bouvier m'a vraiment, pour la première fois, montré qu'on pouvait écrire à partir du minuscule et que c'était finalement la porte d'accès à la psychologie des gens, à la psychologie d'une population, à la géographie d'un lieu la plus fine, la plus perceptible, la plus intéressante aussi. Et donc, je suis partie, suite à cette rencontre, pendant un an, faire ce voyage. Très naïvement, je croyais que j'allais refaire le voyage de Bouvier, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, disons que je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il était intéressant de chercher. Et en fait, je crois que ce que j'ai appris pendant ce voyage, c'est ce qu'est une fiction, c'est-à-dire l'écart entre le réel qu'on a sous les yeux et ce qu'on écrit, et comment ça se recompose, comment l'écriture finalement passe le réel à travers le tamis de la fiction et ça produit du roman, ça produit voilà, des textes d'imaginaire en fait.
Alors comment vous nous parleriez de Solid Channel pour ce qui est de la petite histoire?
Alors, Soliciano, je dirais que c'est un portrait de femme et un portrait un peu en creux, c'est-à-dire à travers sa relation avec deux hommes. D'une part, son mari, qui est son ancien psychanalyste, et d'autre part, un détenu qui est emprisonné pour 22 ans. Et Norma Jean aussi vit les deux relations en même temps. Et on va découvrir petit à petit, hein, c'est un roman construit un peu comme un puzzle, on découvre progressivement les raisons, les choses qui se sont passées dans la vie de chacun, qui ont amené les personnages à être dans telle ou telle situation. Et surtout, je pense que c'est un roman qui parle des rapports psychologiques, du temps également, hein, le rapport au temps de chaque personnage est très particulier. Voilà comment je le résumerais.
Est-ce que c'est un roman qui vous a permis d'écrire plusieurs histoires?
Bah, à l'intérieur du roman, il y a plusieurs histoires. On a les vies des trois personnages, mais le roman, c'est un tout. C'est-à-dire que j'ai pas écrit l'histoire de Norma Jean, puis l'histoire de Jean, puis l'histoire de Marco, pour ensuite découper tout ça et puis les agencer le puzzle. C'est vraiment une seule et même histoire avec trois ramifications, je dirais plutôt ça.
Alors justement, vous l'avez dit en préambule de l'interview, vous avez beaucoup voyagé, vous avez été initié, on va dire, à l'écriture par Nicolas Bouvier. Et ce roman-là, c'est aussi un roman sur l'enfermement.
Oui, tout à fait, ce qui est un peu paradoxal par rapport à l'idée du voyage et de l'ailleurs, même si on sait très bien que l'enfermement, il peut être complètement interne et psychologique dans l'histoire, finalement, dans l'histoire que j'ai écrite. Est-ce que c'est le détenu qui est le plus enfermé? J'en suis pas si sûre, je crois pas d'ailleurs. Oui, c'est un livre par rapport à l'enfermement et au temps. Comment on vit le temps dans la situation d'enfermement, qu'il soit physique ou psychologique.
Au vu de votre œuvre plutôt dans son ensemble, est-ce que vous prenez, il y a des sujets comme ça qui vous taraudent dans la vie, on va dire, et que vous cherchez dans vos fictions à les éclairer de façon différente?
Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire pour moi, quand j'écris un roman, je cherche une réponse à une question. Et une réponse, il n'y en a jamais une. La réponse, je la trouve à travers le déploiement des vies de mes personnages. La réponse, les réponses, ou plutôt les éclaircissements, plus que les réponses. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de réponse définitive à la question du temps, à la question de l'amour. Tout ça, c'est de l'ordre de la composition de chacun.
Dans la vie de Norma Jean, il y a des faits qui sont des faits. Il y a sa naissance. Avec aussi après l'absence d'un père, il y a la rencontre avec un homme qui va s'avérer être une rencontre douloureuse, violente, pour le moins. Tout à l'heure, vous me disiez que vous n'avez pas besoin d'expliquer les comportements que on était dans la narration, etc. Mais quand même, ces éléments-là dans Solid Channel, ils sont pas là pour expliquer le comportement de Norma Jean.
Et bien sûr, mais c'est comme dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'on comprend un être humain. Parce qu'à un moment donné, on a des éléments, il nous livre, on nous raconte des éléments de ce qu'il a vécu. On peut comprendre tel aspect de la personnalité de quelqu'un qui va nous paraître très mystérieux, compliqué. Et puis le jour où on nous raconte que tel événement s'est produit, d'un seul coup, un éclairage se fait. Donc c'est simplement que dans mes romans, c'est pas de l'analyse psychologique théorique. C'est que cette compréhension de l'humain passe par la compréhension de son vécu, et donc dans le roman par la narration de son vécu.
Paradoxalement, Jean, le mari de Norma Jean, et qui était son psychanalyste, est celui qui est en possession de la connaissance de ces faits, et pourtant Norma Jean lui échappe totalement.
Oui, bon, ça c'est aussi un grand classique, c'est-à-dire que les plus avertis peuvent aussi l'être le moins à partir du moment où ils sont dans une situation qui n'est plus thérapeutique ou scientifique, mais qui est en l'occurrence affective, puisque c'est son mari, qu'il est fou amoureux de cette femme, et que cet amour ne s'étiole pas. Donc lui, il y a en effet un écran entre ce qu'il sait d'elle, puisqu'il l'a entendu en cure pendant des années, parler de tout ça, et malgré tout, il se retrouve complètement embarquée par la vague, l'espèce d'onde comme ça, l'onde de choc produite par Norma Jean.
Il y a aussi un personnage qui vit la Renaissance dans Soliciano, et c'est pas celui qu'on croirait. Il est question de Renaissance aussi.
Il est peut-être question de Renaissance avec l'Italie. Est-ce qu'il est question de Renaissance ? Pour moi, oui. Moi, je considère que le personnage de Marco, je considère que bon, la fin du livre est très ouverte, hein, je ne vais pas en parler, mais pour moi, Marco est celui qui a accompli ce qui devait être accompli dans sa vie. Et c'est peut-être celui dont on peut imaginer après le roman que sa vie lui appartient de nouveau. Les autres sont plus aliénés, on va dire.
Ingrid Taubois, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup.
Je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Quel titre de musique ou quel artiste musicien choisiriez-vous pour évoquer votre roman sans les mots ?
Vous savez quoi ? Moi, je...
Vous séchez.
C'est terrible à dire, mais je vis sans musique.
Mon Dieu.
Ouais, je vis sans musique.
Vous faites la musique avec des mots.
J'aime énormément quand la musique est amenée dans mon existence par d'autres, et je l'apprécie et je l'écoute, mais je suis quelqu'un qui vit dans le silence.
Et bien vous êtes la première à répondre ça. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'était Ingrid Taubois qui a répondu à toutes nos questions pour vous au sujet de Soliciano, son magnifique roman que je vous invite vraiment à lire, paru chez Zulma. Rock and Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno de Divergence FM, à la technique. Retrouvez tous les anciens numéros de Rock and Page au http://thisisrockandpage.blogspot.com. À tout bientôt, prenez soin de vous. Moi, je vous laisse en compagnie de Monsieur Gainsbourg, revisité par Brian Molko, avec Requiem, je crois. Listen to the organ that I play for you. Since you got no choice, hear me through. You look as if you like it, but you seem reserved. It's my requiem for a jerk. Jerk. Well, the devil left a message. Goodbye, paradise. Hell's a lot too hot, not too nice. Try to take in code if you've got the nerve. Even I don't need stupid jerks. That's all.